Catherine le matin. Voici le Doc Mailloux.
Bonjour, Docteur Mailloux.
Catherine.
Oui.
Tu illustres bien le résultat de l'étude de Raphaël.
Viens
pour me faire coller que tu étais sage et obéissante lorsque tu étais jeune. Alors, tu es le parfait exemple du résultat de l'étude de Raphaël. Alors, si vous avez des enfants sages et obéissants, vous êtes en train de fabriquer des mitaines, des tapis.
Ouais, mais attendez.
Et c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on va construire l'avenir de la nation canadienne-française.
J'étais pas si pire que ça, Docteur Mailloux.
Catherine.
Mais non, mais j'avais.
On va demander à ta mère si t'étais pas si pire que ça.
Non, je pense
hein?
que.
L'obéissance aux règles, là.
Ouais. Ben en fait, moi, je challengeais. Hein? Je posais des questions, puis quand j'étais pas d'accord, je m'affirmais.
Mais ça, Raphaël,
oui.
Raphaël, elle s'affirmait.
Oui, ouais. Elle était déjà animatrice de radio en bas âge,
Docteur
Mailloux.
Non, mais attendez, c'est-tu désobéir, s'affirmer?
Bon, alors l'histoire des enfants têtus, non. C'est être têtu, c'est d'être obtus, d'être fermé. Tandis qu'un enfant qui s'affirme, qui conteste certaines règles établies, principalement de la mère, est un excellent signe pour l'avenir.
OK. Bon, ça, oui. Ben, sur cet aspect-là, j'avoue que j'avais ça.
Oh, je le sais que tu l'avais, Catherine.
Mais
permets-moi cette intrusion dans ton,
oh, oui, vous faites bien.
Dans ton intériorité.
Mais vous voyez, c'est drôle parce que vous dites que c'est un excellent signe, mais à l'école ou auprès de certains parents, on essaie de contrôler ces enfants-là qui sont désobéissants,
Raphaël,
de leur établir certaines règles, certains cadres. Là.
Raphaël,
oui.
As-tu déjà vu une enseignante qui se réjouit d'un enfant qui a une force de caractère?
Ben oui, ça
puis qui est brillant?
Non, là, non, on recommence pas la semaine de même, là. Oui, ça existe. Moi, j'en ai eu. Je peux vous le dire. J'en ai eu des enseignantes, vous aimez ça le féminisé, là.
Combien? Deux.
Mais qui étaient contentes d'avoir des étudiants
combien
qui étaient
désobéissants. Combien? Peu, Raphaël.
Non, pas désobéissants.
Non, je suis convaincu que c'est pas plus que deux, Catherine Godot.
Ben, ça se compte sur une main.
Bon.
Entre une et cinq. Mais quand même, il y en a. Vous avez dit, est-ce que ça existe? La réponse est oui.
T'as eu combien d'enseignantes dans ta vie, chère Catherine?
Plusieurs, j'ai arrêté de compter.
Bon. Hein? 52?
J'en ai eu plusieurs. Au secondaire, c'était partagé. J'ai eu beaucoup d'hommes, moi, enseignants.
Moi, j'ai eu peu d'hommes.
Ah oui, moi, j'en ai eu pas mal, moi, des hommes. Mais oui, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que oui, il y a des femmes enseignantes qui aimaient les gens avec du caractère puis qui s'affirmaient puis que c'était possible de le faire. Je vous dis pas que c'est la majorité, mais oui, ça existe. Voilà.
Oui, ça existe.
Oui. Ah, le rire. Bon.
Michael Zuski?
Oui.
Les bonnes nouvelles?
Oui.
Un combat digne d'un champion du monde.
Étiez-vous
Michael
là, Dr. Zuski,
c'est un trifluvien, oui.
Okay.
Pardon?
Étiez-vous là?
Ben oui, j'étais là.
OK, c'est ce que je savais pas, là.
Oui. Alors, Michael Zuski a livré un combat, là. Il est un athlète dans une classe à part.
Ah oui, à ce point-là?
Oui. Ah oh, oui.
OK, ça va lui faire plaisir. On va lui parler dans une quinzaine
ben, écoute,
de minutes.
J'étais là, puis c'est unique. Il a un jeu de pied, une souplesse. Écoute, c'est un félin. C'est incroyable. Mm-hmm. Il est vraiment dans une classe à part.
Docteur Mailloux, avant qu'on parle d'Adonis, me permettez-vous de lire un bout de l'article d'Yves Boisvert ce matin dans la Presse Plus?
Oui.
Ça s'intitule « La boxe, c'est pour tuer ». OK, je vous en lis quelques extraits. S'il vous plaît, un peu de sincérité, la boxe, c'est pour tuer. Arrêtez de hurler, amateurs de boxe. Bien entendu, le sport ne consiste pas littéralement à tuer l'autre. C'est ritualisé, c'est différé. On met des gants, on limite le temps, on engage un arbitre, des commissaires. Mais à la fin, c'est quoi la boxe? C'est viser la tête, viser les organes génitaux. Et pour ça, on entraîne des athlètes de haut niveau. Force, endurance, dextérité. Les champions de boxe sont des sportifs comme on en voit pas beaucoup. Et courageux, c'est fascinant comme sport, je ne le nie pas. C'est enivrant, il n'y a pas à dire. Sauf que dans leur cas, la commotion cérébrale n'est pas un risque du métier. Un accident, c'est un objectif.
Bon, Yves connaît rien au sport de la boxe. Alors, pour avoir suivi ça de très près depuis plusieurs années, il y a beaucoup plus de knock-out avec un coup au foie, c'est-à-dire au flanc droit. Un bon coup sec au flanc droit et les Mexicains vont à peu près tous à genoux. C'est la seule façon, parce qu'à la tête, il n'y en a à peu près pas un qui va aller au plancher. Alors, au niveau des moyens, les bons boxeurs, d'ailleurs, Clovis Drolette, l'avant-dernier gala, l'avant à Rimouski, un coup sec au flanc droit et son adversaire a mis le genou à terre. Ça cause une douleur momentanée, qui n'est pas dangereuse, mais qui est momentanée.
Mais en même
temps. Il y a plus de combats par knock-out rapportés par un coup au foie que par un coup à la tête.
Mais en même temps, Dr. Maillot, bon, on est d'accord sur un point, c'est-à-dire que le but, c'est quand même de faire mal à l'autre.
Oh oui, on est d'accord. Supérieur. Ben oui, c'est un combat d'hommes.
Ouais.
Non, mais c'est un combat d'hommes. Ouais. Alors, il y en a qui aiment ça, les combats masculins. C'est un vieux rituel qui est vieux comme l'humanité.
Puis vous pensez quoi? Parce que vous dites que c'est un combat d'hommes, puis en même temps, en fin de semaine, on a notre première Québécoise championne du monde.
Marie-Ève Dicker, oui.
Il y en a aussi des femmes qui font de la boxe. Là.
Ben oui, il y en a qui font, mais ça demeure très marginal. Ça demeure un combat d'hommes. Alors, on raccourcit les épisodes de combat à 2 minutes. Et oui.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a limité? Est-ce que le sport est moins mortel? On l'a encadré?
Oui, c'est un accident. Alors, ce qui est arrivé, d'ailleurs, j'ai bien écouté Christiane tout à l'heure, Laberge.
Ouais.
Elle a fait une belle présentation. Cependant, elle n'était pas là. Et là, je vais vous amener des éléments supérieurs.
Allez-y.
Des éléments, complémentaires. Alors, il est allé au tapis. Ça a pris un petit bout de temps avant qu'il se relève, effectivement. Et par la suite, il y a eu une discussion avec Yvon Michel. Il est allé prendre sa douche seul. Et c'est après sa douche que son état s'est rapidement détérioré. Alors là, il y avait un médecin pas loin puis qui a dit à l'hôpital, compte tenu de la détérioration de l'état, il est devenu confus. Alors que ça allait très bien avant la douche. Après la douche, détérioration rapide et confusion. Il était tout confus.
Mais Doc, qu'est-ce qui fait que la confusion n'arrive pas tout de suite quand le coup est donné? Qu'est-ce qui fait que ça soit quelques minutes plus tard?
Mystère du cerveau.
Ah oui?
Oh, Raphaël, ça fait 39 ans que j'accueille, diagnostique et suis des commotionnés cérébraux dans des accidents d'automobile et dans des accidents de travail. C'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Il y en a qui, après un accident de travail, ont même conduit chez eux et dans les 2 semaines subséquentes, se sont mis à se détériorer et demeurer là... avec des séquelles permanentes importantes, au point d'être invalide.
Il y a un des deux boxeurs canadiens qui est décédé. Je ne me souviens pas si c'est Hag ou si c'est Wetham, mais il y en a un des deux que le lendemain, il y avait une fête de famille, il s'est présenté, et c'est là où il a commencé à ne pas bien se sentir, et il en est mort, je pense, quelques jours après.
Oui, c'est jamais pareil. Et on n'a pas le compte-rendu des neurologues de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, savoir est-ce qu'il s'agit d'hémorragie, est-ce que son cerveau s'est mis à enfler, ce qu'on appelle l'édème cérébral. Et soit dit en passant, lorsque je me suis fait arracher une jambe sur le bord du chemin, ce qui mettait ma vie en danger, c'était pas l'hémorragie, parce qu'on a remplacé le sang graduellement. C'était le danger d'édème cérébral, parce que mon corps s'est mis à édémacier. Ils ont eu une sacrée frousse que ça se communique à mon cerveau. Et là, je serais mort. Je serais pas ici ce matin. Disons que je suis un petit peu bien placé pour vous parler de tout ça.
Absolument.
On va suivre ça tranquillement.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'ai rassuré le monde. Étant sur les lieux, j'ai rassuré le monde là-bas le lendemain matin en leur disant, écoutez, cherche pas la Suisse, puis Montréal, puis Toronto. Là. Le département de neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus est top à Québec pour tout l'est du Québec.
Ah oui, OK. Donc, il est à la bonne place, là.
Je leur ai dit, et là, c'est incroyable, ça a rassuré tout le monde. J'ai dit, il est à la bonne place, les amis. N'allez pas vous mettre dans la tête d'aller le sauver à Montréal ou à Toronto là, ou à Genève.
OK. En tout cas, au moins, ça, c'est la bonne nouvelle. Évidemment, prochains jours vont être déterminants.
Non, la nouvelle n'est pas tellement bonne. Puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Parce que Catherine, Raphaël, Adonis Stevenson menait au pointage jusqu'au 10e.
C'est ce qu'il disait. Donc, avant ça,
j'étais là,
gagné.
J'étais là, puis moi, je suis rendu pas pire. J'évalue chaque round.
Ah oui?
Oui, j'évalue chaque round et je suis souvent pas pire. Pas toujours, tu sais.
Fait que vous le donniez gagnant aussi, là.
Oui, il était gagnant.
Ah oui, OK.
Il était gagnant jusqu'au 10e. Et 41 ans, l'autre a été l'Ukrainien, 31 ans, a été assez stratégique pour attendre. Il a encaissé, il a reçu plusieurs bons coups d'Adonis. Mais il a suivi son plan de match et c'était évident. Si tu avais vu la nervosité de ce boxeur-là tout au long, c'était incroyable. Il était vraiment nerveux, l'Ukrainien. Mais il voulait gagner. Il voulait gagner, pourquoi? Parce qu'il y avait des compatriotes qui sont partis d'Ukraine pour venir à Québec, Je leur ai parlé le lendemain matin.
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais. Deuxièmement, il y a Poutine qui a raisonné 3 bateaux ukrainiens dans la mer de Crimée. Tu sais, ils ont ouais. un patriotisme, là.
Absolument.
On n'est pas avec des tapis canadiens-français, là.
Bon, ça y est.
Non. Okay. Je le dis avec respect, tu comprends?
Ben, il n'y avait pas beaucoup de respect là-dedans, Dr. Mayo. Vous me faites rire.
Catherine.
Oui, je comprends, mais...
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Écoute, il y a des éléments très patriotiques.
Oui,
et
oui,
ça paraît
on
ça.
Se comprend. Okay? Un petit peu, quelques minutes avant la
les
fin.
Les eaux usées.
Ah oui, OK, ben allez-y, oh, je m'en allais. Okay,
non, on oui. parlera de Jessica là, demain. Il n'y a pas de presse. Parce que j'ai lu 2 fois, puis je suis tout mêlé.
OK.
Alors là, Mais j'ai entendu Gilbert Cabana.
Oui.
Écoute, Catherine, j'ai pas le choix, là. Ça commence à m'écœurer. J'ai pas le choix que de déverser les égouts dans la rivière Saint-Maurice. J'ai pas le choix de déverser les égouts de Longueuil dans le Saint-Laurent.
Hey. On... Oui,
j'ai de la misère, là.
Ben, moi aussi, on est deux, là.
Bon, on est deux.
Ben, non, hein.
Alors, oui. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des réparations prévues? Hein? On avertit la population de réduire. Réduire au maximum la quantité. Donc, envoyer le minimum dans le système d'égout. Ça veut dire, mesdames, plus de douche pendant une semaine, va vous laver au lavabo. Ça veut dire que quand on pisse, on floche pas à chaque
ouais, ben,
fois.
Bon, ça, je suis assez d'accord. Pour la douche une hein? fois par semaine, là, là je vous
non,
pas
non, laver, laver au lavabo comme vos mères et vos grands-mères.
Oui, bien, on évolue un peu là-dessus. Là. Non,
non, c'est pas ça. Regarde.
Ben, oui.
Bon, attends un peu.
OK, continue.
Là, il s'agit de mesures d'urgence exceptionnelles
oui.
qui visent à réduire
et vous
la
voulez...
masse des égouts
oui.
pour pouvoir la transvider.
Mais vous voulez dire durant la période de déversement?
Ouais, non, avant, pour avant. Éviter.
OK.
Alors, c'est une alternative. Une alternative au déversement.
Oui.
On va réduire au maximum nos égouts. On va les pomper dans les camions qui vident les puisards. Puis, on va aller transvider ça dans des wagons-citernes sur rails qui vont être immobilisés. Alors, les wagons-citernes vont soit être immobilisés en attendant qu'on se répare ou bien envoyés dans une autre usine d'épuration. C'est intéressant, on est rendu avec 2 choix avec nos wagons-citernes. Vous savez, les wagons-citernes, là, ça sert à transporter le pétrole
ouais.
puis toute une série de produits liquides sur chemin de fer.
Mais pensez-vous qu'on on aurait ça à la disposition des...
Ben voyons, oui?
Donc,
Catherine,
je pose la question, là.
À un coût minimum, ça coûte ouais. pas cher. C'est ça qui est gênant.
OK, mais donc, pour, mettons, parce qu'on dit que c'est à peu près 100 millions de litres d'eau usée, là. 100 millions de litres d'eau usée, tu mets ça dans combien de citernes, en tout et
bon,
partout?
Voilà, c'est ça la question.
OK, c'est ça qu'il faut calculer.
Par citerne, ils rentrent combien? Il s'agit de demander au CN. Alors, combien on rentre de litres de liquide dans un wagon-citerne sur rail?
Il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent la réponse, peut-être des gens qui s'y connaissent là-dedans, 376-1069.
Ben oui.
Mais par contre, Dr Mayou, si par oui. exemple, il y a déraillement du train, avec les wagons-citernes, là, qu'est-ce qui se passe?
Hey, non. Raphaël, fais pas ta gonzesse ce matin. Là.
Mais non, mais
prie.
Parce que j'étais en train de faire des recherches. Par exemple, non, mais je vous donne un exemple. On parle de pétrole. Là. Bon, ben, il y a eu déversement de pétrole brut après le déraillement d'un train en Alberta. Alors, par exemple, quand on fait le transport en train, il y a déversement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça va peut-être, oui, dans les cours d'eau, mais ça va dans l'environnement en tant que tel, alentour du.
Non, Raphaël, là, Raphaël. Habituellement, j'ai beaucoup de respect pour tes positions, mais là, c'est pas ta meilleure.
Mais en fait, c'est pas une position. Je vous pose une question.
Non, ben regarde.
Mais vous avez pas dit immobilisé?
Pardon?
Vous avez pas dit tout à l'heure, les citernes, on les garde à quelque part?
Oui, elles peuvent être immobiles en attendant que notre usine de filtration soit réparée. Et là, on va remettre, on fait le processus inverse. On part du wagon-citerne, on remet ça dans nos camions-pompes, puis on va mener ça à l'usine d'épuration. OK?
OK.
On traite, ou bien on les transfère. Alors, sur les millions de wagons-citernes qui circulent sur les voies ferrées, c'est très rare les déraillements. Deuxièmement, même si nos égouts se ramassaient d'un fossé le long d'un chemin de fer, ils ont... je pense que c'est les municipalités ou l'État civil, là, comment ça s'appelle? Il y a un organisme, ils ont toutes sortes de façon, de matériaux pour bloquer, pour pas que ça prenne les cours d'eau. Alors, c'est beaucoup plus facile à récupérer qu'un déversement de pétrole ou d'azote liquide ou un produit hautement contaminant.
OK. Docteur Mayou?
Oui.
Claude, parce que là, le temps file un petit peu. Claude a fait le calcul. Je pense qu'on a eu un appel d'un auditeur aussi, oui. Raphaël. Claude me dit qu'un camion citerne, c'est capable d'emmagasiner 131 000 litres. Est-ce que c'est ce que tu as?
En fait, David, il m'a contacté. Il m'a dit que lui, il vend en termes de capacité. Là. Donc, camion citerne, ce serait 30 mètres cubes.
Mais moi, c'est en litres que je le veux.
Oui, c'est ça, mais il ne le disait pas en litres, il disait en mètres cubes. Il disait qu'un wagon citerne, c'était 90 mètres cubes.
Un camion citerne, 90 mètres cubes. OK, moi, je pense que je suis vraiment nul en calcul.
30 mètres cubes, le camion citerne, et le wagon citerne, 90 mètres cubes.
OK, je comprends.
Oui, c'est ça, c'est le trip, dans le fond.
OK.
Alors, d'après notre auditeur, il entrerait 3 camions citernes dans un wagon citerne de chemin de fer.
Ah, OK.
Alors, c'est minimal, là. J'ai l'impression qu'ils rentrent plus que plus que 3.
Mais bon.
Comprenez-vous l'histoire?
Oh oui.
C'est de se doter d'alternatives. On n'est pas obligé de prendre des solutions, Mayou, mais je n'accepte pas l'histoire de « on n'a pas le choix ».
Non,
c'est pas vrai.
Non, on est deux là-dessus. Moi aussi, ça m'agresse, puis ça m'énerve.
Ça m'agresse solidement cette impuissance collective qui nous caractérise trop souvent. Je l'ai bien dit, Catherine?
Oui.
Respectueux?
C'est respectueux.
Je déteste l'impuissance collective trop souvent rencontrée dans notre nation.
Oui. OK, on s'arrête là-dessus, Dr Mayou. On vous retrouve à 9h05 à la Commission PM et bien sûr dans votre émission. À tantôt! Oui.